Psaume 120. Cantique des montées. C'est à l'Éternel que dans ma détresse j'ai crié, et il m'a répondu. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Que te rapporte une langue trompeuse? Les traits aigus du guerrier avec les charbons ardents du genêt. Malheureux que je suis de séjourner à Méchec, de demeurer parmi les tentes de Kédar. Trop longtemps mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, eux, ils sont pour la guerre. Ce sera donc là le texte de la prédication. Nous lisons deux autres textes qui lui font écho dans pour certains sujets. Le premier, c'est Luc 11, les versets 9 à 10. Qui rappelle le début du psaume, qui disait que lorsque le psalmiste s'adressait à l'Éternel, il lui répondait. Et ici, c'est Jésus qui parle de l'enseignement sur la prière, et il dit ceci, verset 9, « Et moi je vous dis, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, à celui qui frappe, en ouvrira. » Et un deuxième texte, c'est dans Apocalypse, le dernier livre de la Bible, l'avant-dernier chapitre, le chapitre 21, et nous lirons les versets 6 à 8, qui nous parlent aussi là de la fin de tout menteur qui ne se repent pas. Il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre. Cela, c'est la seconde mort. Voilà donc nous. Nous arrivons dans la prédication de ce beau psaume 120. En fait, un pèlerin sans orientation, imaginez quelqu'un n'a pas du tout d'orientation, eh bien, il est perdu. Il ne peut pas trouver son chemin. Et même si parfois il se trouve dans une situation où il va dans la bonne direction, au croisement suivant, il repartira dans une mauvaise direction. Eh bien, nous sommes dans la même situation. Si le Saint-Esprit ne nous guide pas dans la parole de Dieu. Et nous avons besoin de son œuvre d'orientation dans le cheminement dans la parole de Dieu. Nous comptons donc sur lui ce matin, tout à nouveau, pour cheminer dans sa parole. Alors c'est dans la joie et la grâce de Dieu que nous commençons cette nouvelle année, que Dieu nous confie. Et mon souhait, c'est que l'Éternel nous donne la force et la sagesse pour être des bons gérants du temps qu'il nous accorde. Puisque c'est tout du temps qu'il nous donne, et bien que Dieu nous donne d'être de bons gérants, et qu'il nous accorde aussi de vivre en pèlerins fidèles sur cette terre. Après bien des réflexions, des discussions aussi dans le cadre du Collège d'Anciens, et bien je vous propose de commencer une série de prédications sur une partie des psaumes. Et je m'en inspirerai, comme j'en ai reçu le bon conseil, des prédications de M. Bédard, donc sur les psaumes 120 à 134 qui ont paru dans la Revue Réformée. Et comme il le dit si bien, le chrétien est un voyageur en route vers le ciel. Le chrétien est un voyageur en route vers le ciel. Et nous sommes des pèlerins en route vers la Jérusalem céleste. Alors si jamais les enfants, là il y a quelque chose à écrire. Donc, le chrétien est un voyage en route vers le ciel. Nous sommes des pèlerins en route vers la Jérusalem céleste. Alors bon, c'est vrai que le chemin à parcourir est très divers. Parfois, on se trouve sur des autoroutes où tout semble aller rapidement et facilement. Mais bien d'autres fois, nous cheminons sur des routes plus étroites, sinueuses, qui sont parfois même arrêtées par des travaux, où nous entrons dans des sentiers qui peuvent être rocailleux et escarpés. Les psaumes des montées, c'est le nom donné aux psaumes 120 à 134, ces cantiques des montées sont en fait les compagnons pour le pèlerin. Il le réconforte dans le voyage et l'encourage, l'aide à aller dans la bonne direction. Et le psaume 120 est en quelque sorte le point de départ, ou il peut être aussi un point de reprise du voyage. C'est pourquoi la prédication a pour titre « Le départ » ou « La reprise du chemin du pèlerin ». Et nous allons voir, dans un premier temps, pourquoi nous parlons des psaumes de montée. Ça, c'est le premier point qui s'intitulera « Le départ », pardon, qui s'intitulera « Le chemin du pèlerin ». Le chemin du pèlerin. Ensuite, nous réfléchirons à la situation difficile dans laquelle le pèlerin se trouve. On le voit dans le psaume 120 particulièrement. Et ce deuxième point, plus développé que les autres, aura pour titre « La souffrance du pèlerin ». Et nous terminerons en réfléchissant à la motivation du voyageur. Pourquoi est-ce qu'il est parti en voyage? Qu'est-ce qui le motive à continuer à voyager? Ce sera le troisième point qui est intitulé « Ce qui fait avancer le pèlerin ». Alors commençons par les premiers mots du psaume 120. Si vous avez vos Bibles, ouvrez-les au psaume 120, nous y reviendrons régulièrement. Et les premiers mots qu'on trouve dans le psaume 120, on les retrouve dans le psaume 121, dans le psaume 122, dans le psaume 123, etc., jusqu'au psaume 134. Ces premiers mots, c'est « cantique des montées », tout simplement. « Cantique des montées ». Alors, d'autres traductions parlent de « cantique des degrés » ou « cantique » ou « chant du pèlerinage » ou encore « cantique de Maalot », pour garder le terme hébreu, en fait. Et en fait, comprendre ce que cela signifie, la cantique des montées, le cantique des montées, ou les cantiques des montées, en fait, nous permettra de mieux comprendre quel est le chemin du pèlerin. Alors, c'est vrai que ce terme, Maalot, a donné lieu à beaucoup de réflexions. Certains disent que cela définit les styles des psaumes, qui sont, en fait, écrits de manière progressive. Ou bien que l'on utilisait des tonalités qui montaient pour chanter ces chants. D'autres, comme Luther, y voient une tribune élevée où un prêtre chante ses chants. C'est pourquoi il a traduit cela en disant « Ein Lied im höheren Chor ». Ou encore dans l'Antiquité, il était généralement dit que ces 15 chants, puisque de 120 à 134 il y a 15 chants, que ces 15 chants correspondraient aux 15 marches dans le temple. Voilà pourquoi on traduit aussi parfois par degré, et qu'en fait sur chaque marche on chantait un de ces chants. En lisant Esdras 7 de 6 à 9, certains ont pensé qu'il s'agissait de psaumes compilés ou chantés lors de l'exil. Petit moment de pause, on revient. Donc on est en train de parler de ce terme malo, de monter, hein, de comment on a pu le comprendre. Certains ont compris qu'il s'agissait de psaumes qui étaient compilés et chantés lors du retour d'exil, puisque dans Esdras 7, 6 à 9, il est parlé de la montée de Babylone à Jérusalem. Alors, c'est fort probable que ces chants ont été chantés lors du retour à Jérusalem, mais ce n'était pas nouveau. Cela s'appuyait sur quelque chose de plus ancien. En fait, ce terme « montée » désigne le fait d'aller à la maison de l'Éternel, d'aller dans la présence de l'Éternel. C'est vrai, Jérusalem est située dans les hauteurs, donc il faut y monter pour y aller. Mais même lorsque le tabernacle était à Silo, les Israélites étaient appelés à monter au tabernacle. Nous avons un exemple, hein, dans 1 Samuel 1,13, vous connaissez l'histoire de Samuel avec ses parents, Elkana et Anne, eh bien, ils montaient chaque année, depuis les montagnes d'Éphraïm, ils montaient chaque année à Silo. Et même avant que le lieu de la présence de l'Éternel ne soit fixé, Dieu avait dit à son peuple dans Exode 34-24, « Tu monteras pour te présenter devant l'Éternel ton Dieu trois fois par an. » Tu monteras. Notion de monter. Donc ce n'est pas juste une question géographique. En fait, c'est le fait d'aller dans la présence de l'Éternel. Il nous a clairement dit que Jésus lui-même, lorsqu'il avait 12 ans, est monté à Jérusalem. Ou encore, durant tout son ministère, plusieurs fois, il est monté à Jérusalem jusqu'à la dernière fois où il est monté à Jérusalem pour s'offrir en sacrifice, pour que nous puissions être sauvés. Et la montée vers Jérusalem se faisait en chantant. Ésaïe nous dit dans Ésaïe 30, 29, « Vous chanterez comme la nuit où l'on célèbre la fête. Vous aurez le cœur joyeux, comme celui qui marche au son de la flûte pour vous rendre à la montagne de l'Éternel vers le rocher d'Israël. » Et le roi David disait dans le psaume 24, que nous avons chanté d'ailleurs dans le premier chant, il disait ceci: « Qui montera à la maison de l'Éternel ? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint ? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme aux choses vaines et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la puissance de Dieu, du Dieu de son salut. » Monter à la montagne de l'Éternel, c'est se présenter devant l'Éternel. Et qui peut se présenter devant l'Éternel saint et parfait ? Le psaume 24 le dit. Uniquement celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Qui a les mains innocentes et le cœur pur ? Personne par lui-même. Personne par lui-même, mais tous ceux qui sont purifiés par le sang de Christ ont le cœur pur et peuvent entreprendre ce pèlerinage qui conduit à la présence de Dieu, justement. Nous ne sommes pas appelés à monter vers Dieu pour l'atteindre. Ça, c'est en fait toutes les autres religions du monde qui le disent, que nous devons monter jusque vers Dieu pour l'atteindre. Non, Dieu est venu jusqu'à nous. Il est descendu jusqu'à nous. Nous ne montons pas pour l'atteindre, mais pour le rejoindre en suivant le chemin qu'il est venu tracer. Et ce n'est pas chacun son chemin, car il n'y a qu'un chemin. Jésus l'a clairement dit, Jean 14, 6, vous connaissez ce texte. Il est très connu, et il est bon de l'avoir dans son cœur. Jean 14, 6, il dit, c'est Jésus qui dit, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le chrétien est un pèlerin spirituel, et il marche sur le chemin qui est Christ en fait. C'est vrai que chacun vivra son cheminement différemment, parce que nous sommes différents. Mais tous les pèlerins ont le même objectif et le même guide. D'ailleurs, Jésus, qui est notre guide, chantait sûrement lui aussi ses psaumes lorsqu'il montait à Jérusalem. Et c'est dans la présence de Dieu, lorsqu'il y est arrivé, qu'il s'est offert en sacrifice pour nos péchés. Il a vaincu la mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, il est maintenant dans la nouvelle Jérusalem où il nous prépare une place. Nous sommes des pèlerins en route vers cette nouvelle Jérusalem et nous soupirons d'y être bientôt. Ah, moi je me réjouis. Être dans la nouvelle Jérusalem, ça va être le sommet. Enfin, c'est bien mieux encore, bien entendu. On n'a pas de mots pour le décrire. Donc, pendant le chemin de notre vie, nous pouvons chanter les psaumes des montées, comme les fidèles de l'Ancien Testament, mais avec la perspective de la Nouvelle Jérusalem, la patrie céleste. Donc là aussi les enfants, quelque chose à noter, hein. Pendant le chemin de notre vie, nous pouvons chanter les psaumes, chanter ces psaumes des montées, comme les fidèles de l'Ancien Testament, mais nous avons cette fois-ci la perspective de la Nouvelle Jérusalem, notre patrie céleste. Dans ce premier point, nous avons compris que quand nous lisons cantique de montée, nous comprenons cantique de cheminement vers Dieu, vers Jérusalem, vers la Jérusalem céleste pour nous. Et nous pouvons le chanter dans notre chemin de pèlerin. La question c'est, es-tu un pèlerin en route vers la cité céleste ? Es-tu un pèlerin en route vers la Jérusalem céleste ? Parce que si vous n'êtes pas un pèlerin en route vers la Jérusalem céleste, vous êtes dans le train du monde qui file en direction de la perdition. Et même les wagons les plus luxueux arriveront à la même destination. Vous connaissez le voyage du pèlerin. Le livre de John Bunyan, nous l'avons lu lors du cercle de lecture. Et vous vous souvenez de ce pauvre homme qui vivait dans la ville de destruction, qui était entouré de personnes qui ne croyaient pas dans la vérité et qui, par leurs mensonges, voulaient le retenir. Ou durant son voyage, ces personnages qui voulaient l'arrêter ou le faire égarer. Vous vous souvenez peut-être de messieurs obstinés, faciles, mondains, enfin, pour ne citer que les premiers, il y en a eu des dizaines d'autres. C'est un peu ce que vivait le pèlerin du psaume 120, en fait. Et c'est ce que nous vivons aussi, me semble-t-il, et c'est ce que nous allons chercher à comprendre avec ce deuxième point, qui nous parle des souffrances du pèlerin. Les souffrances du pèlerin. Dans ce psaume, l'auteur souligne particulièrement trois choses qui provoquent la souffrance du pèlerin. La première, c'est le mensonge. La deuxième chose qui cause la souffrance, c'est l'éloignement, être éloigné de Dieu. Et le troisième, c'est les conflits ou la haine de la paix. Alors on va commencer par s'arrêter sur le mensonge. Et j'aimerais simplement vous relire les versets 2 à 4 du psaume 120 qui traite de ce sujet justement. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Que te donne, que te rapporte une langue trompeuse? Les traits aigus du guerrier, avec les charbons ardents du genêt. Quand le psalmiste demande de délivrer, donc il dit ici, Éternel, délivre mon âme, il dit littéralement, arracher sa proie aux fauves. Dans 1 Samuel 17, 34 à 35, lorsque David est devant Saül, il lui explique ce qu'il faisait dans les champs. Et voici ce qu'il dit. Donc quand il était berger, il dit, « David dit à Saül, ton serviteur faisait paître le troupeau de son père. Et quand le lion ou l'ours venait enlever une bête du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais. » C'est le même terme que dans le psaume 2. « J'arrachais la bête de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisis par le poil du menton, je le frappais et je le tuais. » Le pèlerin crie à l'Éternel de l'arracher du fauve du mensonge, si vous voulez. Ce fauve du mensonge qui dévore sa victime comme le ferait un animal. Là aussi, les enfants, quelque chose à noter. Le pèlerin crie à l'Éternel de l'arracher du fauve du mensonge qui dévore sa victime comme le ferait un animal. Sommes-nous conscients des dégâts des lèvres mensongères et de la langue trompeuse? Est-ce qu'on est vraiment conscient des dégâts du mensonge? Est-ce que nous demandons aussi d'être délivrés du mensonge comme le psalmiste? Ou est-ce que nous sommes tellement habitués au mensonge que nous ne voyons plus le danger? Le verset 3 pose une question intéressante. Que rapporte le mensonge? Qu'est-ce que le mensonge peut rapporter? Alors c'est vrai. Puis ça, les enfants, ils peut-être qu'ils le font, je ne l'espère pas, mais ça peut arriver, ou les grands l'ont fait en étant enfants. C'est vrai que mentir à ses parents en leur disant qu'on a terminé ses devoirs nous permet peut-être d'aller nous amuser plus rapidement. Mais notre conscience est chargée. Et lorsque la vérité est découverte, il y a correction. Et les parents ne font plus autant confiance qu'avant. Il faut reconstruire la confiance. La conséquence du mensonge. Et là, ça semble encore petit. Mais dans d'autres circonstances, ça peut être dramatique. Mentir, dit le psalmiste, donne les traits aigus du guerrier. Ce qui veut dire des flèches pointues que le guerrier utilise pour tuer. C'est comme des flèches pointues pour tuer. Il parle même du charbon ardent du genêt, là, au verset 4. Hein. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, il semble que le genêt est un bois qui se consume moins rapidement et donc reste plus chaud et brûle plus longtemps. Et pour incendier une ville assiégée, eh bien, les assaillants utilisaient des flèches enflammées pour détruire la ville. Et dans un proverbe, on trouve une image semblable, et cela concerne les mensonges que l'on dit pour rigoler. Psaume 26, 18. Comme un furieux lance des flammes, des flèches de la mort. Ainsi est un homme qui trompe son prochain et qui dit, c'était pour plaisanter. Vous comprenez pas la plaisanterie? Mentir peut être une flèche mortelle pour l'autre, mais elle l'est aussi pour soi-même. Parce qu'en mentant, nous indiquons à l'autre qu'il ne peut pas nous faire confiance. Parce que le jour où il découvre la vérité, il ne peut plus nous faire confiance. Mentir, c'est encore une flèche mortelle pour soi-même, parce que le mensonge est un péché, et le péché nous place sous la flèche du jugement de Dieu. La langue trompeuse n'apporte pas de matériaux de construction, mais de destruction, comme la flèche qui tue. Les lèvres mensongères n'apportent pas la guérison, mais la dégradation, comme le charbon ardent qui brûle longtemps. C'est Satan, le père du mensonge, qui envoie ses flèches enflammées contre lesquelles nous avons besoin du bouclier de la foi. Mais pour nous, au contraire, comme le dit le Saint-Esprit par Paul, et là c'est Éphésiens 4, 29, je le dis souvent, c'est le texte de la communication qu'il faut étudier. Il est dit dans ce texte qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. L'âme du pèlerin, dans le psaume 120, l'âme du pèlerin est tourmentée par le mensonge. Délivre-moi, Éternel. Est-ce que nous vivons aussi dans un contexte de mensonge comme ce pèlerin? Bien, je le pense. Il suffit simplement de réfléchir aux mensonges sur les origines. Dans toutes les écoles, on enseigne l'évolution. Il suffit de penser aux mensonges sur notre identité. On nous dit que nous sommes des animaux. Aux mensonges sur la réalité du péché. On nous dit, parfois même, que le péché n'existe pas. Ou encore aux mensonges sur la dangerosité du péché. On nous pousse à profiter du péché en disant même que cela fait du bien. Pensons aux mensonges sur la bonté de Dieu. On nous dit que Dieu ne peut pas être bon. Ou encore aux mensonges sur l'amour de Dieu. On nous dit que si Dieu nous aime, il ne peut pas nous juger. Ou encore aux mensonges sur nos capacités. On nous dit que nous pouvons trouver toutes les forces en nous-mêmes. Quel mensonge. Ou encore aux mensonges sur nos destinées éternelles. On nous dit que l'enfer, le paradis, ça n'existe pas. Ou encore aux mensonges sur le mariage. On nous dit que le genre n'est pas important. Ou encore aux mensonges sur l'avortement ou l'euthanasie. On veut nous faire croire à tout prix que ce n'est pas un meurtre. Ou encore aux mensonges sur la sexualité. On nous fait croire que les relations sexuelles hors mariage sont une bonne chose. Ou encore aux mensonges dans la publicité. On nous fait croire que nous avons besoin du dernier produit ou du dernier appareil. Mensonge. Ou aux mensonges du relativisme, où on nous dit qu'il n'y a pas de vérité. Face à tout cela, la seule chose que je peux dire, et je pense que vous pouvez le dire avec moi, Seigneur, délivre-moi de la langue trompeuse, délivre-moi du mensonge. La puissance du mensonge est redoutable. Et nous avons besoin d'être délivrés du mensonge pour nous mettre en route vers le ciel. Parce qu'il est écrit, nous l'avons lu dans Apocalypse, « Tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Pour être un pèlerin démonté, nous devons constamment nous détourner du mensonge et saisir la vérité. Jésus dit, nous l'avons aussi vu tout à l'heure, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Éternel, délivre-moi du mensonge et remplis-moi de Jésus-Christ. » Ça, c'est notre prière, que nous soyons remplis de Christ, de la vérité. Et justement, notre pèlerin désire être tout près de l'Éternel, parce que loin de lui, il est également dans la détresse. C'est la deuxième chose qui provoque la souffrance du pèlerin. Regardez avec moi au verset 5. Malheureux que je suis de séjourner à Méchec, de demeurer parmi les tentes de Kédar. Alors bon, comme ça, on se dit, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Méchec et Kédar sont des lieux éloignés. Et le premier, donc Méchec, se trouve dans le Caucase au nord, Kédar en Arabie au sud. Ce sont des lieux éloignés de Jérusalem et ils représentent un voisinage hostile. Un pèlerin ne peut pas être dans les deux endroits à la fois, c'est vrai, au nord et au sud. Mais il indique que tous les pèlerins qui sont loin de la maison de l'Éternel sont malheureux. Lorsqu'on est loin de l'Éternel, nous sommes malheureux. Il n'y a aucune joie, pas de bonheur. Il est impossible d'être vraiment heureux loin de Dieu. Impossible. Là aussi, les enfants, quelque chose à noter. Il n'y a aucune joie, pas de bonheur. Il est impossible d'être vraiment heureux en étant loin de Dieu. Être loin de Dieu, c'est être proche du monde. Et nous voyons par exemple Lot, qui avait choisi de vivre proche du monde et qui était tourmenté jour et nuit. C'est comme si vous deviez vivre à côté d'une fournaise. Impossible d'être à l'aise ou tranquille si proche d'un brasier si chaud et si dangereux, non ? Vous aimeriez vivre à côté, vous ne pouvez pas vraiment vous déplacer, vous êtes à côté de ce brasier qui peut vous brûler à tout instant. Sommes-nous malheureux lorsque nous sommes loin de Dieu et proche du monde ? Voyons-nous le monde comme une fournaise dangereuse ? Aspirons-nous à être avec notre Dieu, à être proche de lui, de le rejoindre dans la gloire où il n'y a plus de péché, où c'est la félicité ? Revenons-nous à la croix du Christ, qui est le moyen de revenir sur le chemin du pèlerin lorsque nous péchons. Mes chers frères et sœurs, pèlerins dans le Seigneur, je vous encourage à aspirer à être toujours plus proche de l'Éternel, parce que c'est là le vrai bonheur, d'être proche de Dieu. Et la troisième chose qui fait souffrir notre pèlerin, c'est les versets 6 et 7, ce sont les conflits ou la haine de la paix. Je relis ces versets 6 et 7. « Trop longtemps, mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, eux, ils sont pour la guerre. » Et le pèlerin ici désire profondément la paix et ceux qui l'entourent, la guerre. Est-ce que le pèlerin sortira indemne de son temps passé avec ceux qui haïssent la paix ? Que veut dire haïr la paix ? C'est par exemple aimer son bien-être plus que la paix. C'est aimer avoir raison plus que la paix. C'est vouloir le pouvoir à tout prix. C'est ne regarder qu'à soi-même. C'est ça, haïr la paix. C'est pas juste je veux pas, c'est dans notre façon de vivre que nous pouvons haïr la paix. Le pèlerin, dans le psaume 120, très clairement, et nous pouvons dire nous-mêmes aussi, souffrons du mensonge, de l'éloignement et des conflits. Le chemin du pèlerin est difficile, comme le nôtre parfois. Mais est-ce qu'il ne fait que soupirer ? N'a-t-il pas d'espoir, ce pauvre pèlerin ? Eh bien, nous allons revenir au début du psaume, pour savoir ce qui fait avancer le pèlerin, ce qui le fait partir d'ailleurs, qu'est-ce qui l'a fait partir dans son voyage ? C'est notre troisième point, ce qui fait avancer le pèlerin. Et lisons la deuxième partie du premier verset, où il est dit « C'est à l'Éternel que dans ma détresse j'ai crié et il m'a répondu. » C'est à l'Éternel que dans ma détresse j'ai crié et il m'a répondu. Vous avez bien entendu ? Dans sa détresse, il fait une chose essentielle, une action primordiale, fondamentale. Il crie à l'Éternel. Il crie à l'Éternel. Il ne parle pas à toutes les personnes qu'il pourrait rencontrer. Il va vers le maître de l'univers, le seul qui peut le sortir de sa situation. Celui qui n'est pas limité, qui fait absolument tout ce qu'il veut. Dieu fait tout ce qu'il veut. Allons vers lui. C'est le seul qui peut nous sortir de ces difficultés. Oh, que Dieu nous aide à suivre l'exemple de ce psalmiste, que dans nos moments de détresse, nous nous tournons vers l'Éternel. Si vous retenez cette phrase, c'est à l'Éternel que dans ma détresse j'ai crié et il m'a répondu, vous avez saisi le sens de ce passage, de ce psaume. Lorsque Jésus enseignait sur la prière, nous l'avons lu, il a dit, et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, celui qui frappe, on lui ouvrira. C'est notre salut, notre moteur, notre joie, Dieu qui répond aux prières. C'est ça notre salut, les amis. La manière d'être de venir à Christ, d'être transformé, ça se passe comment? Bien sûr, c'est une œuvre de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies, absolument. Et ça se manifeste par la prière. Notre salut, notre moteur et notre joie, c'est Dieu qui répond à nos prières. S'il dit, si vous confessez vos péchés, je suis fidèle et juste pour les pardonner, il le fera. S'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, sur le lourd fardeau de vos péchés, je vous donnerai le repos d'une âme purifiée, il le fera. S'il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, il le fera. Jamais, jamais, il ne nous met dehors si nous allons auprès de lui. C'est par une prière que nous devenons des pèlerins chrétiens, en reconnaissant notre situation désastreuse au milieu des mensonges, loin de Dieu, parmi ceux qui haïssent la paix, et nous étions de ceux-là. Mais Dieu, dans sa miséricorde et son amour immense, lui, nous qui étions morts, il nous a rendu la vie. Il nous permet de pousser un premier cri de la vie. Vous savez ce que c'est le premier cri de la vie? Je me repens et je crois. C'est ça le cri du bébé, la nouvelle naissance. Il est dit que le pèlerin du psaume 120 a crié. Ce n'est pas un appel mou et timide, c'est un cri. Bon, c'est vrai que parfois on est très faible et qu'on n'arrive même plus à crier. C'est vrai. Mais alors là, ce qui sort de nos cœurs est quand même un cri. Parce que Dieu regarde au fond de notre cœur et pas la puissance de notre voix. Et là, message d'espoir, essence pour la route, action décisive pour cheminer. Après la phrase « C'est à l'Éternel que dans ma détresse j'ai crié », l'Éternel m'a répondu. L'Éternel m'a répondu. L'Éternel répond toujours à celui qui vient à lui sincèrement. L'Éternel répond. Il ne cherche pas notre satisfaction immédiate, c'est vrai, notre bien-être facile, mais notre bien à long terme. Il pourvoit à nos besoins sur le chemin, c'est vrai, mais il nous pourvoit à nos besoins sur un chemin qui nous conduit quelque part, qui nous conduit à la patrie céleste. Et Dieu n'est pas une invention humaine. Parce que si c'était une invention humaine, il ne pourrait que faire ce pour quoi il était programmé. Il ne pourrait que faire ce que l'homme a décidé qu'il ferait. Dieu n'est pas une invention humaine. Dieu est indépendant de l'homme. Et il répond selon ses propres critères. Il ne répond pas selon nos critères. Il répond selon ses critères. Dans le voyage du pèlerin que j'ai cité tout à l'heure, Chrétien, dans son voyage, rencontre Apollyon. À Apollyon qui représente les forces du mal qui viennent l'attaquer. Et à ce moment, il y a un combat là qui se livre. Et Chrétien combat, résiste au dard enflammé du malin avec son bouclier du mieux qu'il peut. Malheureusement, il est blessé, il perd son épée, il semble qu'il va se faire tuer. À ce moment-là, il peut reprendre son épée par la grâce de Dieu. On voit vraiment l'aide de Dieu dans ce moment-là. Et avec, il frappe Apollyon avec la parole de Dieu. Parce que l'épée, c'est la parole, on a compris. Et après ce rude combat, voici le chant que chante un chrétien. Belzébub, ce roi de la troupe infernale, avait lâché sur moi son chef le plus ardent. Ce dragon animé de fureur sans égale venait fondre sur moi sans perdre un seul instant. En vain, par ses discours, il tenta ma constance. Dans un pareil combat, il faut vaincre ou mourir. Et j'aurais succombé malgré ma résistance si mon roi n'eût été prompt à me secourir. Oui, l'archange Michel, veillant pour ma défense, d'un glaive à deux tranchants, arma ma faible main. Par son puissant secours, j'obtins la délivrance. Je blessai le dragon qui s'envola soudain. Béni soit à jamais l'auteur de ma victoire, mon cher Emmanuel, mon divin protecteur. Donne-moi désormais de vivre pour ta gloire, toi qui dans ce combat fus mon libérateur. Chrétien se souvient de cette libération. Avez-vous été libéré? Si vous l'avez été, vous pouvez vous souvenir de la libération de Dieu. Rappelons-nous que lorsque nous avons crié à l'Éternel, il a répondu. Nous avons besoin de nous rappeler ça. Nous pouvons même nous le rappeler les uns les autres, nous dire, mais tu sais pas, la dernière semaine de l'année 2015, Dieu a répondu à ma prière. Sans lui, j'étais perdu. Alors que nous étions sur le chemin de la destruction, menant vers une mort éternelle certaine, Dieu nous a secourus. Lorsque nous l'avons prié, il nous a répondu. En conclusion, le psaume 120 nous indique le début du chemin. Il nous indique également comment continuer lorsque nous sommes dans de grandes difficultés, entourés de mensonges, loin de la maison de l'Éternel, entourés de haine. C'est à l'Éternel que dans ma détresse, j'ai crié et il m'a répondu. As-tu crié à l'Éternel? Es-tu un pèlerin qui monte en direction de la Jérusalem céleste? Ou es-tu